Alphonse de Ligorie, Préparation à la mort, première considération. Portrait d'un homme qui vient de mourir. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Premier point. Considérez que vous êtes poussière et que vous retournerez en poussière. Un jour viendra où vous mourrez. Et où votre corps, livré à la pourriture, n'aura d'autres vêtements que les vers. C'est une loi générale. Princes et sujets, nobles et roturiers, tous y sont soumis. Votre âme, s'échappant avec votre dernier soupir, s'envolera vers son éternité, et votre corps, bientôt après, sera réduit en poudre. Représentez-vous une personne qui vient de mourir. Considérez ce cadavre encore gisant sur le lit, théâtre de ses douleurs. Voyez cette tête inclinée, ses cheveux en désordre et encore tout baignés des sueurs de la mort. Ses yeux caves, ses joues pâles et livides. Cette langue et ses lèvres où la corruption imprime déjà ses sombres couleurs. Ce corps froid et pesant, qui peut le voir sans pâlir, sans trembler? Combien de gens qui, à la vue du cadavre d'un parent ou d'un ami, se sont convertis et ont quitté le monde? Combien plus d'horreur encore n'inspire pas ce cadavre lorsqu'il a commencé à se corrompre? 24 heures ne sont point encore écoulées depuis la mort de ce jeune homme, et déjà son corps exhale une odeur infecte. Il faut ouvrir les fenêtres, brûler des parfums, se hâter de faire porter son corps à l'église et le mettre en terre, de peur qu'il n'infecte toute la maison. Qu'importe que ce corps soit celui d'un noble, d'un riche, il ne se distinguera des autres que par une odeur plus insupportable. Les corps des riches, dit un auteur, exhalent une odeur plus fétide. Voilà donc cet orgueilleux, cet impudique, naguère désiré, accueilli dans les sociétés, devenu maintenant un objet d'horreur pour tous ceux qui le voient. Ses parents, eux-mêmes, s'empressent d'en débarrasser leur maison. On paie des hommes de peine pour l'enfermer dans une bière et le porter au lieu de sa sépulture. Autrefois, l'on vantait partout son esprit, sa galanterie, ses bons mots, ses belles manières. Il n'y a que quelques instants qu'il est mort, et déjà l'on ne pense plus à lui. À la première nouvelle de sa mort, l'un dit : il se faisait honneur. L'autre : il a laissé sa maison dans un bon état. Ceux-ci s'en affligent, parce qu'ils étaient intéressés à ce qu'il vécut. Ceux-là s'en réjouissent, parce que sa mort leur est avantageuse. Au reste, dans peu de temps, personne ne s'en occupera. Dès les premiers jours du deuil, ses parents ne veulent plus en entendre parler, afin, disent-ils, de ne pas renouveler leur douleur. Dans les visites de condoléances, on s'entretient de tout autre objet. Et si quelqu'un vient à rappeler la mémoire du défunt, « Ah, de grâce !» s'écrie le parent, « ne me le nommez plus. » Pensez que l'on fera à votre mort ce que vous avez fait à celle de vos amis, de vos parents. De nouveaux acteurs se présentent sur la scène pour s'emparer des biens et occuper les charges des défunts auxquels on ne pense plus ou presque plus. Vos parents s'affligeront d'abord, mais bientôt ils se consoleront avec la portion de votre héritage qui leur sera échue. Ils en viendront, dans peu, à se réjouir de votre mort jusqu'à jouer et badiner dans le lieu même où vous avez rendu le dernier soupir et où vous aurez été jugé par Jésus-Christ. Et votre âme, où sera-t-elle alors ? Affections et prières. Ô Jésus, mon Rédempteur, je vous rends grâce de ce que vous ne m'aviez point appelé à vous lorsque j'étais dans votre disgrâce. Depuis combien d'années ai-je mérité l'enfer? Si je mourais aujourd'hui, si je mourais cette nuit, quel serait mon sort pour l'éternité? Seigneur, je vous en remercie. J'accepte la mort en satisfaction de mes péchés, et je l'accepte comme il vous plaira de me l'envoyer. Mais puisque vous m'avez attendu jusqu'ici, donnez-moi encore un peu de temps pour pleurer l'offense que je vous ai faite, avant que j'aie à en rendre compte à votre redoutable jugement. Je ne veux plus résister à votre voix. Qui sait si ces paroles que je viens de lire ne seront pas les dernières que vous daignerez me faire entendre. J'avoue que je suis indigne de pardon. Tant de fois déjà vous m'avez pardonné, et moi, tant de fois, je vous ai offensé de nouveau. Mais, Seigneur, puisque vous ne rejetez pas un cœur contrit et humilié, voici ce perfide qui revient à vous. Ah, je vous en conjure, ne m'éloignez pas de vous, puisque vous avez promis de recevoir celui qui aurait recours à votre bonté. Il est vrai que je vous ai offensé, et qu'en cela je me suis montré plus coupable que d'autres, puisque vous m'aviez favorisé de plus de grâce. Mais le sang que vous avez versé pour moi relève mon courage abattu et offre le pardon à mon repentir. Oui, mon Dieu, je me repens sincèrement de vous avoir offensé. Pardonnez-moi et accordez-moi la grâce de vous aimer à l'avenir autant que je vous ai offensé. Ô mon Jésus, je ne veux plus employer la vie qui me reste à vous outrager, mais à pleurer les fautes dont je me suis rendu coupable et à vous aimer de tout mon cœur. Ô Dieu, digne d'être infiniment aimé, ô Marie, mon espérance, priez Jésus pour moi. Second point. Mais pour mieux comprendre ce que vous êtes, chrétien, mon frère, dit saint Chrysostome, approchez-vous d'un tombeau. Voyez-y de la poussière, de la cendre, des vers, et poussez de profonds gémissements. Considérez comme ce corps, devenu d'abord livide et noir, se couvre ensuite d'une espèce de lèpre qui dégénère en pourriture, donne naissance à une multitude de vers, auxquels se joignent d'autres vils animaux pour chercher leur pâture dans ce cadavre. Les uns lui entrent dans la bouche, les autres pénètrent jusqu'à ses entrailles, les joues, les lèvres, les cheveux se détachent, les côtes se dépouillent les premières de leur chair, puis les bras et les jambes. Les vers, après s'être rassasiés, périssent eux-mêmes. Et enfin, il ne reste plus qu'un squelette qui exhale une odeur fétide et qui, avec le temps, se divise par parties. Les os se séparent, la tête se détache du tronc. Voilà ce qu'est l'homme, un peu de poussière que le vent dissipe en un instant. Ce cavalier que l'on nommait les délices de la société, l'âme des conversations, où est-il ? Entrez dans sa maison, vous ne l'y trouverez plus. Si vous cherchez son lit, un autre s'en est déjà emparé. Si vous cherchez ses habits, d'autres se les sont déjà partagés. Voulez-vous le voir lui-même? Approchez de cette fosse, vous n'y trouverez plus que de la pourriture et des os dépouillés. Ô Dieu! Dans quel état est réduit ce corps nourri avec tant de sensualité, vêtu avec tant de luxe, et aux soins duquel était attaché un si grand nombre de domestiques? L'amour que nous devons à notre corps ici-bas consiste à le réduire en servitude. afin qu'il soit éternellement heureux, et à le priver de tous les plaisirs qui lui attireraient un éternel malheur. Vous l'avez bien comprise, cette vérité, ô saint, qui, pour l'amour de ce Dieu, unique objet de vos affections sur la terre, avez su mortifier votre corps. Maintenant, vos ossements sont recueillis avec soin et honorés comme de précieuses reliques, tandis que vos âmes bienheureuses jouissent de la vue de Dieu en attendant ce dernier jour où vos corps viendront se réunir à elle pour partager leur gloire, comme ils ont partagé leur croix et leur souffrance. Affections et prières. Voilà donc, ô mon Dieu, ce que deviendra un jour ce corps pour lequel je vous ai tant offensé, de la pourriture et des vers. Mais loin de m'affliger, je me complais dans la pensée que ce corps, qui m'a fait perdre mon souverain bien, sera réduit à la corruption et au néant. Je n'ai d'autre douleur que celle de vous avoir causé tant de déplaisirs pour me procurer de misérables satisfactions. Mais je ne veux pas désespérer de votre miséricorde. Vous m'avez attendu pour me pardonner. Et vous me pardonnez en effet si je me repens. Ô bonté infinie, oui, je me repens bien sincèrement de vous avoir offensé. Je vous dirai, avec sainte Catherine de Sienne, plus de péché, ô mon Jésus, plus de péché. Je ne veux pas me prévaloir plus longtemps de votre patience, ô amour crucifié. Je ne veux pas attendre pour vous embrasser que vous me soyez présenté par mon confesseur à mes derniers moments. Dès aujourd'hui, je vous embrasse, je vous recommande mon âme. Cette âme malheureuse qui, depuis tant d'années qu'elle est au monde, ne vous a jamais aimé. Ah, donnez-moi, je vous prie, les lumières et les forces nécessaires pour vous aimer pendant le peu de jours que j'ai encore à passer sur la terre. Je ne veux point attendre pour vous aimer que je sois à l'article de la mort. Dès aujourd'hui, je vous aime, je vous embrasse, je m'attache à vous pour ne m'en séparer jamais. Ô Marie, liez-moi à Jésus par des liens d'amour. Obtenez-moi la grâce de lui demeurer toujours fidèle. Troisième point. Mon cher frère, dans ce portrait que je viens de tracer, reconnaissez-vous vous-même. Reconnaissez ce que vous deviendrez un jour. Pensez que, dans peu d'années, de mois, de jours peut-être, votre corps ne sera plus qu'un amas de pourriture et de vers. C'est en méditant cette pensée que Job s'est sanctifié. J'ai dit au néant, « Tu es mon père, et à la corruption, tu es ma mère et ma sœur. » Tout doit finir, et à la mort, si vous perdez votre âme, tout sera perdu pour vous. Considérez-vous comme déjà mort, dit saint Laurent Justinien, vous qui devez nécessairement mourir. Si vous étiez déjà mort, que ne voudriez-vous pas avoir fait? Maintenant que vous vivez encore, songez que vous mourrez un jour. Saint Bonaventure avait coutume de dire que, comme le pilote, pour bien gouverner son vaisseau, se place à la proue, ainsi, l'homme, pour bien vivre, doit se placer en idée au moment de sa mort. De là, ajoute saint Bernard, voyez les péchés de votre jeunesse et rougissez. Voyez les désordres plus récents de vos dernières années. Tremblez et hâtez-vous d'y apporter remède. Saint Camille de Lellis, lorsqu'il méditait sur les tombeaux, se disait à lui-même, que ne feraient pas tous ces morts pour la vie éternelle s'il leur était donné de vivre encore sur la terre? Et moi qui ai le temps, que fais-je pour mon âme? C'était l'humilité qui dictait à ce saint un tel langage. Mais vous, mon frère, n'avez-vous pas raison de craindre que vous ne soyez ce figuier sans fruit dont Jésus-Christ a dit « Voici 3 années que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. » Vous qui êtes au monde depuis tant d'années, quel fruit avez-vous produit ? Remarquez, dit saint Bernard, que le Seigneur ne cherche pas seulement des fleurs, mais qu'il veut des fruits, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir de bons désirs, de prendre de généreuses résolutions, mais qu'il faut faire de bonnes œuvres. Sachez donc mettre à profit le temps que Dieu vous donne dans sa miséricorde. N'attendez pas à désirer le temps de faire le bien lorsqu'il vous sera dit « Il n'y a plus de temps pour vous, partez, c'est maintenant qu'il vous faut quitter ce monde. Ce qui est fait, partez. » Affections et prières. Me voici à vos pieds, ô mon Dieu. Je suis cet arbre maudit qui a mérité depuis tant d'années d'entendre sortir de votre bouche cette terrible sentence. Coupez-le, il ne mérite plus d'occuper la terre. Oui, depuis tant d'années que je suis au monde, je n'ai produit que des épines et des ronces. Mais, Seigneur, vous ne voulez pas que je perde courage. Vous avez dit à tous que ceux qui vous chercheront vous trouveront. Je vous cherche, ô mon Dieu, et je désire obtenir votre grâce. J'ai un sincère regret de toutes les fautes dont je me suis rendu coupable envers vous. Je voudrais en mourir de douleur à vos pieds. J'ai eu, par le passé, le malheur de m'éloigner de vous. Mais maintenant, votre amitié est plus précieuse à mes yeux que tous les royaumes du monde. Je ne veux plus résister à vos douces invitations. Vous voulez que je sois tout à vous. Eh bien, mon Dieu, je le veux aussi. Vous êtes donné tout entier à moi sur l'arbre de la croix. Aujourd'hui, je me consacre à vous sans réserve et sans partage. Vous avez dit, si quelqu'un demande quelque chose en mon nom, je le lui accorderai. Plein de confiance en votre promesse, ô mon Jésus, c'est en votre nom, c'est par vos mérites que je demande votre grâce et votre amour. Faites que la grâce et l'amour surabondent dans cette âme malheureuse où abonda le péché. Je vous remercie de m'avoir inspiré le désir de vous faire cette prière. C'est une preuve que vous voulez m'exaucer. Exaucez-moi donc, ô mon Jésus. Donnez-moi un grand amour pour vous, un grand désir de vous plaire et la force d'exécuter mes bonnes résolutions. Ô ma grande avocate, exaucez-moi aussi. Ô Marie, priez Jésus pour moi.